Honoré de Balzac, Le vicaire des Ardennes. Tome 1, chapitre 1. Tout était en mouvement dans le village d'Aunay, situé au pied de la forêt des Ardennes. La cloche rendait des sons d'un éclat, d'une force et d'une rapidité qui faisaient le plus grand honneur aux forces et aux talents du bedeau. La plupart des villageois, appuyés contre la porte de leur maison, regardaient, sans rien dire, vers l'entrée du hameau, tandis que les femmes, en se parlant, soit d'un côté de la rue à l'autre, soit par leur croisée, eussent rendu curieux le stoïcien le plus imperturbable. Leur discours roulait sur la jeunesse, l'esprit, la taille et la conduite future du personnage attendu. Enfin, des groupes nombreux de paysans semblaient s'entretenir d'un objet important, et chacun, plus paré que ne le comporte un simple dimanche, attendait le dernier coup de la messe pour ne pas manquer d'être témoin de l'installation d'un jeune vicaire envoyé par l'évêque d'A. Les plus savants, c'est-à-dire ceux qui lisaient couramment, portaient avec orgueil un paroissien héréditaire à coin tout usé et crasseux. Rien de plus facile que de justifier le murmure des conversations, le gros rire des paysans et l'air d'attente empreint sur tous les visages à l'occasion d'un événement qui peut paraître très simple. En effet, la commune d'Aunay le vicomte, quoique chef-lieu de canton, était séparée des villes voisines par trois mortels lieux de pays. Or, je laisse à penser si 800 bonnes âmes, confinées dans un vallon solitaire, n'ont pas raison de se tourmenter lorsqu'il en arrive une de plus, et surtout lorsqu'elle arrive nantie d'une autorité difficile à classer dans la hiérarchie des pouvoirs champêtres. Aussi le corps ministériel de l'endroit s'était-il assemblé spontanément chez le pharmacien, dont la boutique était le quartier général de l'état-major, de la place. Là, on commentait une décision si inattendue et si marquante dans les fastes de la commune. Pour donner une idée de l'effet que produisait dans le village cet arrêté du pouvoir épiscopal, nous allons introduire le lecteur au centre de cet attroupement des plus fortes têtes du lieu. Le personnage le plus considérable était le maire, ancien charcutier du village, lequel fut promu en 1814 à cette haute dignité. Il caressait avec complaisance les débris d'une ancienne robe de Florence blanc dont il avait fait une écharpe. Tout le génie de Madame Devaux, sa femme, s'était épuisé pour y mettre une frange honnête, et l'on doutait si cette frange devenait un ornement ou une marque de vétusté. Tout le village avait vu le reste de la robe à la fenêtre de M. Devaux, le jour de la rentrée du roi. La grosse figure, rouge et plate, de ce fonctionnaire d'Aunay, révélait son irritable et vaniteuse nullité, comme les saucisses de bois peint qui lui servaient d'enseigne indiquaient sa profession. À côté de lui se trouvaient les satellites du pouvoir municipal, c'est-à-dire le garde champêtre, décoré de sa plaque et de son briquet, et le facteur de la petite poste en grand costume. Non loin de ce trio administratif, M. Engerbé, le plus gros fermier du village, et Marcus Tullius le Sec, maître d'école et précepteur du fils de ce fermier, semblaient s'appuyer l'un sur l'autre. Au centre se trouvait M. le Corneur, le percepteur des contributions, lequel, ayant croisé ses doigts sur son gros ventre, causait avec un adjoint qui fut maire en 1815. Tandis que le juge de paix, revêtu de sa robe et la tête couverte de son bonnet carré, tournait autour de ce groupe en tâchant de n'être ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Enfin, quelques membres de la commune erraient çà et là, comme pour découvrir ce dont il s'agissait dans ce conciliabule fortuit, et s'efforçait de saisir au passage quelques bribes de la conversation pour fixer leur politique. « Oui, messieurs, je le soutiens !» s'écriait Marcus Tullius d'une voix qu'il tâchait en vain d'assourdir. « Monseigneur ne nous envoie un vicaire que parce que Monsieur Gauss ne sait pas le latin. Quoi qu'on dise que c'est moi qui en ai instruit Monseigneur l'évêque, le fait est trop notoire pour avoir besoin de dénonciation. Encore l'autre jour, pour un mariage pro-matrimonial, il commençait le libéra, ce qui signifie « délivrément », car c'est à l'impératif. Si je ne l'avais pas, heureusement, arrêté. Si vous voulez que je vous parle « libenter », c'est-à-dire le cœur sur la main, je crois qu'il était gris, non pas forte, mais piano, légèrement, comme dit Cicéron. En prononçant le nom de Cicéron, le maître d'école ôta son chapeau et s'inclina. Malgré la défaveur qui pourrait en résulter pour le maître d'école, nous aurons le courage d'avouer que le sec, qui s'appelait avant la Révolution Jean-Baptiste, profita de ce temps d'anarchie pour changer ses noms welsh et prendre les glorieux prénoms de l'orateur romain. D'après cela, continua-t-il, vous sentez que Monseigneur l'évêque a dû donner un vicaire à M. Gauss, plutôt pour surveiller sa conduite que comme un aide, car le sacerdoce, sumus pontificatus, n'est pas une si lourde charge. Et que diable, monsieur Marcus Tullius, il faut être de bonne foi, reprit monsieur le corneur, qui dînait très souvent chez le curé. Monsieur Gauss ne mérite pas ses affronts, il fait très bien sa cure, ses mœurs sont irréprochables, et depuis 30 ans que je suis en place, jamais le curé n'a laissé venir 2 avertissements pour ses contributions. L'a-t-on vu regarder une fille en face? Et Marguerite n'a-t-elle pas un âge mûr? Vous avez beau savoir le latin, monsieur Marcus, le latin ne rend pas infaillible et ne fait pas d'un sot un homme de génie. Pas plus que barème, répondit le maître d'école, n'a pu faire un homme poli d'un percepteur de contributions. Je n'ai jamais fait parade de ma science, au moins. Vous ne pouvez pas me le reprocher, reprit le percepteur. Et quoi que je sache les proportions, je ne m'en suis pas encore vanté. Mais pour en revenir au curé, les tranches de latin dont vous entrelardez vos paroles ne valent certainement pas les excellents proverbes qu'il nous adresse en bon français. Ils sont sages, tout le monde les comprend, ils tiennent quelquefois lieu de bien des sermons. Pour en finir, et répondre à ce que le sacerdoce n'est pas une lourde charge, monsieur Tullius, je vous ferai observer qu'il y a ici 1200 personnes à baptiser, confesser, marier et enterrer. Que monsieur Gauss a 70 ans, qu'il est infirme et qu'il a demandé un aide. Si à la fin on lui en envoie un, que voyez-vous d'extraordinaire à cela? Ce vicaire est jeune, c'est tout simple. Que ferions-nous de 2 vieillards? Tout cela est bel et bon, dit le maire d'un ton doctoral. Mais vous vous trompez dans vos conjonctures. Si l'on nous envoie un vicaire, c'est à cause que M. Gauss a prêté serment et... À ces mots, le facteur de la poste et le garde champêtre firent un signe de tête approbateur qui semblait dire « J'y étais ». Monsieur le corneur, accablé sous le poids de cet argument de haute politique, resta muet. Marcus Tullius, ennemi du curé, essaya de porter les derniers coups. « Si les mœurs de M. Gauss sont pures, ce n'est pas sa faute. C'est bien in vitus, comme le dit Cicéron. » On sait pourquoi. Et du reste, ils s'en dédommagent par la gourmandise. Vino et inter pocula. Le juge de paix jeta de l'huile sur le feu en ajoutant « C'est bien dommage, en vérité, d'avoir un curé incapable, car un vicaire, c'est une charge pour la commune, et mon pauvre greffier pourra bien y perdre. Si le nouvel arrivant se mêle de concilier, il éteindra de justes contestations et fera sacrifier à chacun ses droits légitimes pour ne pas plaider, ce qui est évidemment contraire aux procès-verbaux et à l'esprit de justice qui veut que l'on rende à chacun son dû. Cuique tribuere sumius, ajouta Tullius. L'adjoint qui fut destitué de ses fonctions de maire en 1815 prit alors la parole. Mais de quoi vous plaignez-vous donc? La commune n'est-elle pas assez riche pour payer un vicaire? À moins que ses revenus ne soient diminués, dit-il en lançant un coup d'œil à son successeur. Mais tout cela n'est pas le fin mot. Je vois ce dont il s'agit. Vous êtes ambitieux et avide de pouvoir. Et quoi? Parce que M. Gauss est plus riche que vous, est-ce une raison pour le décrier? Il mange et boit bien, dites-vous. Parbleu, chacun son métier. A-t-il enterré un vivant pour un mort? Refusé de venir à un repas de baptême et de bénir les mariages, même un peu tardif? Mais il est reçu au château et vous ne l'êtes pas. Comment donc? S'écria l'ancien charcutier, devenu rouge comme un homard. « Madame la marquise ne m'a peut-être pas déjà fait venir deux fois. »« Oui, pour se plaindre de la mauvaise qualité des denrées que vous lui fournissez, » répliqua aigrement l'adjoint. « Et une troisième fois pour le jour de la Saint-Louis, et nous y dînâmes, mon épouse et moi, » répondit le maire. « Quoi qu'il en soit, vos raisons sur la venue du jeune vicaire n'ont pas le sens commun. » L'évêque en avait refusé un, il y a 6 ans, lorsque j'étais maire. Et dernièrement encore, M. Gauss réitéra sa demande, qui ne fut pas mieux accueillie. Tout cela prouve qu'il y a d'autres causes, secrètes, importantes et politiques peut-être. Car on dit que les jésuites reviennent. Lisez les journaux, et vous verrez l'état de la politique européenne. M. le corneur, se voyant soutenu, défendit de nouveau le curé. Il s'adressa au maire, étonné de la sortie de son rancuneux prédécesseur, et lui dit « Enfin, monsieur le maire, monsieur Gauss n'est-il pas la meilleure de vos pratiques ?»«
C'est vrai, »
répondit l'officier municipal. Et s'adressant au mercier qui faisait partie du groupe « Marguerite n'achète-t-elle pas 2 robes par an, monsieur Collot ?»«
Oui. »
N'est-ce pas vous qui fournissez le drap et la toile des soutanes du curé?
C'est encore vrai.
Et son macaroni, le poivre, les olives, le Saint-Vincent, l'huile, la bougie, n'est-ce pas vous seul qui les lui vendez, monsieur Delporte?
Et j'ose dire qu'il n'a pas dû s'en repentir, car je ne l'ai jamais trompé, soit dans le poids, soit dans la qualité de la marchandise. Car quoique dans le système décimal, il n'y ait plus de 2000 livres, à cause que la division ayant été arrangée autrement, de manière que, voyez-vous, et qu'il y a comme 5 quarterons à la livre, et... »
Ici, M. Delporte regarda Tullius, et ce dernier, habitué à ce signe de détresse, termina la période. Et M. Delporte aurait considérablement perdu dans son négociat, si les 5 décagrammes n'avaient pas justement remplacé les 4 quarterons de l'ancien régime.
C'est cela, dit le maire. Nous n'y avons pas gagné.
Le percepteur termina cette digression décimale en s'écriant :
C'est comme nos 5 centimes, qui ne font non plus que le solde d'autrefois.
Et saisissant M. Devaux par le bouton le plus chancelant de son habit, il le mit dans une double inquiétude en lui disant :
N'est-il pas vrai, pour en revenir encore à M. Gauss, qu'il aurait pu se fournir de viande chez M. Fontaine?
Jamais, monsieur le percepteur, car Mademoiselle Fontaine ne montre pas assez de dévotion pour cela. C'est une fort aimable personne, mais qui a la langue un peu longue, et qui n'épargne pas plus le curé que ses ouailles.
Cela peut être, reprit le corneur. Et M. Gauss ne fait sans doute que ce qu'il doit en prenant chez vous. Mais avouez que d'un autre côté, il donne peu de dîners sans que vous y soyez invité.
C'est vrai.
Aujourd'hui même, ne sommes-nous pas tous du déjeuner d'installation du vicaire?
On m'a oublié, dit Tullius avec dédain.
Il y a de bonnes raisons pour cela, reprit le percepteur.
Oui, ajouta le maire, tout à fait revenu de ses préventions contre le curé. Vous, Tullius, le subordonné de M. Gauss, vous,
Mais vous n'avez aucune complaisance pour lui, dit le corneur. Vous l'accablez sous le poids de votre érudition, de votre latin.
C'est vrai, continua l'officier municipal. Mais votre fierté pourra s'abaisser. Le sous-préfet, dans sa dernière tournée, a paru mécontent de vous.
Or, ajouta le corneur, le préfet a beaucoup de crédit et vous pourriez bien...
perdre votre place, dit le maire.
À ce mot, et à l'effroi de Tullius, M. Desvaux, se radoucissant, ajouta.
L'autorité locale interviendra, monsieur. Vous savez le latin, mais il ne faut pas pour cela vous croire un aigle. J'aurais voulu vous voir avec votre latin dans les réparations des chemins vicinaux.
Parlez-en, dit le médecin, qui jusque-là n'avait rien dit. Vous avez si bien employé les 1000 francs alloués à cet effet que ma jument grise a manqué rester dans un trou de marne mal comblé.
Ce n'est pas que j'entende attaquer votre probité, monsieur Desvaux, mais vos lumières ne brillent pas toujours du même éclat, monsieur le maire. »
Tullius avait trop à ménager avec le maire pour dire un mot. Il resta impassible.
« Le fait était qu'on aurait pu les mieux réparer, » s'écria l'ancien maire, se haussant sur la pointe du pied et se caressant le menton.
Les yeux étincelants du magistrat annoncèrent un orage, mais le bon percepteur le détourna en disant à le sec
« J'aurais aussi voulu voir à quoi Cicéron vous aurait servi dans la comptabilité des emprunts forcés lors du passage des Alliés. »
Monsieur Engerbé, voyant le précepteur de son fils accablé sous les sarcasmes, répliqua.
Il est vrai que vous vous en êtes très bien tiré, monsieur le corneur, car c'est vers cette époque, ou un peu après, que vos revenus se sont accrus et que vous avez acheté votre maison. Mais ce n'est pas un reproche, chacun son métier.
Oui, dit le sec, cui quae suae clitellae, à chacun sa clientèle.
Mais où logera ce jeune vicaire ? Demanda le juge de paix.
« Au presbytère, » répondit M. Desvaux.
« On pourrait prendre son logement sur les centimes facultatives, » observa le percepteur.
« Nous avons bien assez de charges, » s'écria le fermier.
« Messieurs, » dit Marcus Tullius en se pavanant et se mettant au milieu du groupe,
« voulez-vous que je vous fasse maintenant découvrir la raison de l'arrivée d'un jeune vicaire bien tourné ?»«
Eh bien !» demandèrent tous ensemble le maire, l'adjoint, le percepteur et le médecin.
« Eh bien, dit le sec, vous ne voyez pas que c'est madame la marquise de Raucourt qui aura fait placer un de ses protégés. On n'a pas toujours du monde si loin de Paris, voyez-vous. Et nous savons tous que monsieur Gauss n'entend plus assez bien le jeu pour faire sa partie. »
Marcus Tullius n'était jamais si content que lorsqu'il avait dit une méchanceté. Il aurait sacrifié tout pour un bon mot. Pauvre et attendant tout de ses supérieurs, il les sacrifiait sans pitié à son envie de briller. Mais sa méchanceté n'allait pas plus loin que les paroles. Pendant que les honnêtes gens donnaient le vicomte discouraient ainsi, le curé Gauss était dans de grands embarras. Une simple lettre partie de l'évêché d'A lui avait annoncé que, le 4 mai, M. Joseph, jeune séminariste nouvellement ordiné, viendrait le soulager dans l'exercice de ses augustes fonctions avec le titre de vicaire, et qu'on eût à l'installer avec pompe et dignité. L'évêque regrettait que sa mauvaise santé l'empêchât de présider à cette cérémonie, dans laquelle il nommait 3 curés des environs pour le remplacer. On sent que le mot « jeune séminariste » avait été semé dans tout le village par la gouvernante du curé, qui ne manqua pas d'encadrer cette épithète d'une vaste bordure de commentaires et de conjectures qui piquèrent justement la curiosité. Enfin, depuis 2 jours, Marguerite, aidée par le plus âgé des enfants de cœur, balayait et nettoyait le presbytère avec le plus grand soin. La poussière qui faisait mine de tenir garnison fut combattue avec tant d'ardeur qu'elle fut contrainte à déloger des endroits réputés jusqu'alors inaccessibles. Tout devint reluisant comme l'or.
La gouvernante tournait dans la cuisine autour de 5 fourneaux, tous allumés. Les provisions arrivaient et chacun, en les apportant, donnait un coup d'œil aux apprêts de Marguerite. Après le coup d'œil, un conseil, et ce conseil entraînait une causette où la bonne Marguerite ne refusait jamais de faire sa partie. Le curé, dès le matin, avait mis une demi-heure à descendre à sa seule bibliothèque pour y reconnaître et choisir son meilleur vin et ses liqueurs. Ses préparatifs étant achevés, le calme régnait au presbytère depuis une heure, et Marguerite, assise dans sa cuisine devant la cheminée, se reposait sur ses lauriers. « Marguerite !» s'écria le curé du fond de son salon, dont les croisées étaient garnies de vieux rideaux de lampas rouges. « Marguerite !
Me voici !
Le couvert est-il tout à fait mis ?
Oui, monsieur.
Conduis-moi, mon enfant, que je voie ce joyeux coup d'œil. » Le bon vieillard, arrivé juste à l'embonpoint du prélat du lutrin, avait besoin pour se lever de son antique bergère de velours du trèque rouge, du bras potelé de sa grosse et fraîche gouvernante. Marguerite le guida vers une salle à manger, décorée d'un ancien papier à ramage vert. Le gilet de velours du bon curé ne rejoignait jamais ses larges culottes, et sa chemise, en se montrant par ce petit intervalle, rompait l'uniformité de la couleur. Cette légère remarque suffit pour vous donner une idée du laisser-aller de son maintien. La figure de M. Gauss était en harmonie avec cet abandon. Sans être trop rouge, elle avait un honnête coloris. Ses yeux bleus, pleins de douceur, annonçaient un cœur excellent et ne lui permettaient pas de déguiser une seule des pensées de son âme candide. Cette bonté répandue sur son visage était tempérée par une teinte de gaieté et de satisfaction qui prouvait que le curé n'avait rien à se reprocher et qu'il ne s'inquiétait nullement des pourquoi ni des comment de la vie, ayant pris l'existence du bon côté et ne tourmentant personne. Ses traits s'animèrent et ses lèvres se retroussèrent légèrement vers le nez à l'aspect du beau linge blanc qui couvrait une table chargée d'un gros pâté, de volailles froides, etc. Mais en voyant la rangée de bouteilles que Marguerite avait disposée sur une petite servante à côté de sa place, son rire devint plus prononcé, son œil plus gai, et regardant Marguerite avec un air d'approbation, il lui passa la main sous le menton, ce qui la fit sourire à son tour. « Hé, mon enfant, crois-tu que cela soit bien ?»«
Très bien, monsieur. »«
Le café, Marguerite, est-il prêt ?»«
Il est moulu, foulé, et il coule. »«
Tu as mis le couvert de mon vicaire à côté de moi ?»
« Oui, monsieur, tenez, le voici. »«
Aïe, aïe !» Cette exclamation était causée par une douleur de sciatique qui tourmentait le curé.
« Ah, Marguerite, dit-il, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Je ne suis pas bien. Mais qui sait vivre, sait mourir. »«
Mourir ? À quoi pensez-vous donc ? Ah, ma fille, j'ai trop d'années derrière moi !» reprit-il avec un sourire gaillard, semblable à ces coups de soleil qui brillent en hiver. « Vois-tu mes cheveux blancs, Marguerite ? Il est vrai que tête de fou ne blanchit jamais. Et comme un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras, je préfère être au bout de ma carrière que de la recommencer. Au bout du fossé, la culbute !»«
Monsieur, dit Marguerite, ne parlez pas de tout cela. Vous m'attristez, et j'aime mieux croire que vous ne mourrez pas. »
« Marguerite, il ne faut pas dire... Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Le temps passe et la mort vient. J'aime assez dormir. Et après tout, la mort n'est peut-être qu'un sommeil sans rêve. Pourquoi s'en effrayer ? Les Indiens disent « Il vaut mieux être assis que debout, couché qu'assis, mais il vaut mieux être mort que tout cela. »
Vous avez beau rire, monsieur. Quand on meurt, on voudrait bien vivre encore.
« L'habitude est une seconde nature, dit le curé, mais au total, pourvu que je meure au milieu de mes amis et dans la paix du Seigneur, et que Marguerite me ferme les yeux, je rendrai mon âme à Dieu telle qu'il me l'a donnée. Ce qu'il fera sera bien fait. »
Il y eut un moment de silence. Marguerite regarda d'un œil attendri le vieillard qui contemplait le ciel avec une expression sublime de foi et de simplicité.
« Écoute, Marguerite, » dit le curé à voix basse, « je n'ai pas invité Marcus Tullius parce qu'il me drape toujours et que devant mon vicaire, il faut garder le décorum. Mais il est pauvre. Alors, mon enfant, tu lui porteras à la nuit, sans qu'on te voie, un gros morceau de pâté, une bouteille de bon vin et ce qui restera de présentable parmi les volailles. Car, à tout péché, miséricorde. »
« Pauvre cher homme, toujours le même !»
s'écria Marguerite, tandis que son maître courait de chaise en chaise pour aller boucher une bouteille dont le bouchon venait de sauter.
« Marguerite, quelqu'un dans le village connaît-il ce jeune vicaire ?»«
Non, monsieur. »
« Hélas, mon enfant, il faut espérer que ce sera un bon jeune homme, car s'il en était autrement, qu'il tourmentât ces pauvres gens pour leurs danses, leurs petits défauts inséparables de notre nature, qu'il fût trop rigide, je serais fort embarrassée.
Monsieur, s'il est jeune, vous pourrez l'endoctriner.
C'est vrai, Marguerite.
Et puis, s'il est jeune...
À ces mots, Marguerite se regarda dans le miroir, arrangea ses cheveux et rougit sous le regard du curé, qui jeta sur elle un coup d'œil ironique et sévère à la fois. En ce moment, les principaux personnages que nous avons vus assemblés chez le pharmacien arrivèrent et sonnèrent. La gouvernante courut ouvrir.
Chapitre 2. Monsieur Gauss passa dans son salon pour recevoir les arrivants, qui furent bientôt suivis des collègues du curé Donné le Vicomte. Ces derniers déclarèrent avoir vainement attendu sur la route le jeune vicaire annoncé. 10 heures étaient sonnées, on commençait à s'inquiéter. Lorsqu'au bout d'un quart d'heure, on entendit, au dehors, le bruit des pas d'une multitude silencieuse. Marguerite entra tout effarée, elle s'approcha de l'oreille de son maître et lui dit
« Monsieur, voici votre vicaire. »
« Vaut mieux tard que jamais !»
répondit Jérôme Gauss, et s'appuyant sur le bras de Marguerite, il s'avança vers l'antichambre pour recevoir le jeune prêtre. En l'apercevant, le bonhomme tressaille. Il retient la parole bienveillante et proverbiale qu'il avait préparée, et une espèce de crainte se glisse dans son âme. Le jeune homme, voyant le trouble causé par sa présence, dit au curé d'un ton grave « Monsieur, je suis Monsieur Joseph, le vicaire dont Monsieur l'évêque d'A vous annonça l'arrivée il y a peu de jours. Je m'empresse de me rendre à ses ordres et de vous assurer de mon respect. »
En prononçant ces paroles, le prêtre s'efforçait en vain de répandre un peu d'aménité sur son visage, mais cette contraction mensongère produisait une toute autre expression. Le curé trembla de nouveau et ne put rien répondre, tant il était interdit. En effet, à travers le teint basané d'un Indien, on apercevait une pâleur livide répandue sur le visage du jeune homme. Ses lèvres décolorées, son attitude morne, semblaient annoncer la pratique la plus rigoureuse des lois de la vie ascétique. Ses cheveux noirs, coupés par devant, et tombant en grosses boucles sur ses épaules, donnait à sa figure un air inspiré, qu'augmentait encore la vivacité d'un œil noir, pénétrant et rempli d'une sombre énergie. Le pasteur, jetant à Marguerite désolée un regard où toute sa pensée se lisait, prit le prêtre par la main et l'introduisit dans le salon en disant d'une voix chevrotante «
« Messieurs, je vous présente Monsieur Joseph, le vicaire que Monseigneur l'évêque d'A a eu la bonté de m'accorder, afin de me soulager dans l'exercice de mes fonctions. »
Tout le monde se leva. Monsieur Joseph salua avec une noblesse et une aisance qui étonnèrent les assistants, car ils ne s'attendaient pas à trouver de telles manières dans un vicaire de campagne. mais tous, ainsi que le curé, ressentirent une frayeur involontaire lorsque l'étranger laissa tomber sur eux son regard éclatant et semblable à celui de l'aigle. Le regard du crime ou du remords n'est pas plus profond ni plus éloquent. Ce jeune prêtre semblait pleurer intérieurement une faute que les larmes de toute une vie pénitente ne sauraient racheter. Il s'assit, la conversation cessa, le silence le plus profond s'établit. Monsieur Joseph ne fit rien pour l'interrompre, et sa présence produisit un effet aussi magique que celui de la tête de la fameuse gorgone. La crainte et ses vertiges paraissaient former le cortège du vicaire, ou plutôt le sentiment qui nous porte à nous taire devant les grandes douleurs, les grands coupables, les grandes vertus, agissait dans toute sa force. À bien examiner la figure de Monsieur Joseph, on y reconnaissait pourtant quelque chose de gracieux et de chevaleresque, mais c'était de légers vestiges presque effacés, soit par une passion forte, soit par les souvenirs. Enfin, de même qu'il y a des gens dont les manières nous introduisent sur-le-champ dans leurs âmes, dont la franchise aimable et la folâtrerie naïve font tomber toutes les barrières de l'étiquette, il en est d'autres qui, par un mot, par un geste, par un regard, imposent l'observation et la réserve. Le vicaire était de ces derniers, et l'on ne pouvait s'empêcher, en le voyant, de prendre une haute idée de son égarement ou de ses vertus. Enfin, le maire, qui ne doutait de rien, se hasarda à rompre le silence en interrogeant ce personnage extraordinaire. « Monsieur, dit-il, avez-vous trouvé notre endroit conséquent ?»« Oui, monsieur, répondit le vicaire avec un léger sourire. « Il paraît, continua le maire, que ce bourg est bien avantageusement situé à cause que les étrangers viennent quelquefois le visiter, ce qui supposerait alors que la campagne et ses environs, la plaine, les bois, enfin le village, ont... » Ici le fonctionnaire, interdit par l'air glacial et sévère de Monsieur Joseph, devint cramoisi, s'arrêta court et chercha par habitude son fidèle aide-de-camp, le sec, qui pour cette fois ne put achever sa phrase. Le curé Gosse, exhumant de vieilles prétentions littéraires depuis longtemps oubliées, vint au secours de l'autorité municipale dans l'embarras. « Monsieur le maire a raison, s'écria-t-il, notre pays est délicieux. La vaste forêt des Ardennes couronne de tous côtés nos montagnes, et ces arbres semblent une foule réunie dans un amphithéâtre pour jouir du spectacle de notre joli vallon. La petite rivière qui y serpente l'anime par ses détours. Ses chaumières irrégulièrement placées, ce clocher gothique qui les domine, le château qui termine le village, son beau parc, les ruines, le lac, tout ici est enchanteur. Et l'on serait heureux, monsieur, dans ce hameau, si l'ambition ne tourmentait pas les hommes. Mais chacun veut... monter plus haut que son échelon, et cette ambition est quelquefois le principe des petits tourments de nos villageois. Quoique, je répète souvent, chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Mais au total, ici les gens sont plutôt bavards que méchants, et vous aurez envie d'y finir vos jours, mon cher vicaire, quand vous y aurez passé quelque temps. » En disant ces derniers mots, le bon curé regardait si le vicaire ne froncerait pas le sourcil, mais le jeune prêtre, tout en paraissant écouter, voilait, par sa pose modeste, une parfaite indifférence, et son œil fixé sur le chambranle de la cheminée semblait y voir autre chose que la grosse horloge du curé. Le pharmacien tournait ses pouces en ne pensant peut-être à rien. Le mercier ouvrait de grands yeux en apercevant qu'il n'avait pas dans sa boutique de linge aussi fin que celui de Monsieur Joseph, tandis que Monsieur le corneur minutait déjà la cote des impositions du nouveau venu. et que les trois confrères du curé remarquaient que les souliers du jeune homme ne portaient aucune trace de la poussière de la route.
Que peut-on désirer de plus ? Continua le curé. Qu'une charmante valet et un ami, de bons villageois que l'on encourage, dont on n'arrête pas les innocents plaisirs. Ils ont bien assez de peine, grand Dieu. Quant à moi, je réponds que ma tombe sera parmi les leurs.
Et la mienne aussi, répliqua le vicaire avec un profond accent de mélancolie. À ce mot, le silence vint encore régner dans le salon. Après quelques minutes, les trois curés attirèrent le jeune homme dans l'embrasure de l'une des deux croisées, et l'un d'eux lui demanda s'il avait préparé son prône d'installation.
« Non, monsieur, pensez-vous que cela soit nécessaire ?
Comment donc ? Autant qu'un bouchon à une bouteille ! » s'écria le curé Gauss un peu échauffé.
« Si vous voulez, » dit un des curés qui prit l'expression du visage de monsieur Joseph pour de l'embarras, « je puis vous en donner un des miens. »«
Je vous remercie, » reprit le vicaire. Quelques phrases dictées par le sentiment profond qu'inspirent les devoirs du sacerdoce doivent suffire et toucheront plus le cœur des habitants de la campagne que les pensées d'un étranger que la circonstance où je me trouve n'émouvait point lorsqu'il les assembla.
Le vicaire prononça ces paroles d'un ton solennel qui frappa ses auditeurs.
En ce moment, les cloches sonnèrent avec une furie sans exemple, et un petit malheureux, revêtu d'une robe blanche trop courte, qui laissait voir un pantalon déchiré et des bas troués, entra en tenant à la main une petite calotte de drap rouge, faite avec le reste d'un vieux corsage de marguerite. Il annonça que tout était prêt à l'église et que les derniers coups sonnaient. Les membres du corps municipal se rendirent à l'église et les prêtres à la sacristie, par une communication qui existait entre elles et le presbytère. L'église d'Aunay est une de ces créations originales dont l'architecture gothique a semé la France. Sa fondation remonte à des temps très reculés, et cette église dépendit autrefois d'une abbaye dont il ne reste plus de vestiges. Le clocher s'élance hardiment, les murs noircis par le temps, ruinés en quelques endroits, inspirent cette mélancolie qui s'élève dans l'âme à l'aspect de la destruction lente et successive à laquelle les ouvrages de l'homme ne peuvent être soustraits. Le portail est vaste, la voûte de la nef étendue et sonore. Les piliers romans ont de la grâce et de la force. Du reste, l'édifice n'est défiguré par aucun ornement étranger. La chaire est simple et le maître-autel, en marbre, est surmonté d'une croix et garni de 6 cierges et de vases de fleurs. La nef contient des chaises très propres. Ce jour-là, toute la population d'Aunay s'y trouvait rassemblée. La lumière, passant à travers des vitraux de couleur retenus par des plombs, était sombre et jetait une demi-teinte favorable au recueillement. Cette foule, naguère bruyante et agitée par des passions aussi nombreuses que les personnes qui la composaient, était devenue tout à coup silencieuse. Cependant, il est présumable que M. Joseph entrait pour beaucoup dans ce silence, car chacun, l'œil fixé sur la sacristie, attendait impatiemment son apparition. Un murmure vraiment catholique, car il fut universel, s'éleva dans l'assemblée lorsqu'il parut, suivi des 4 curés et du clergé champêtre d'Aunay. Mais bientôt le plus grand calme succéda à ses agitations, et ce calme ne fut plus interrompu. La messe fut dite par le jeune vicaire, avec un air de conviction qui saisit cette multitude. L'inspiration qui régnait dans les manières du prêtre passa dans l'âme des assistants, et ce ministère auguste, accompli avec tant de ferveur, contemplé avec tant de recueillement, devint alors un sublime spectacle. Ces âmes simples que le même sentiment portait vers la divinité, ces regards, tantôt sur la voûte, tantôt baissés sur la terre, cette unité d'action, ce silence religieux, et cette attention dirigée sur un seul être, placé en intermédiaire entre les hommes et la divinité, entre la terre et le ciel, demandant au Créateur des miséricordes pour les coupables, des forces pour les affligés, et le trésor entier de ses grâces pour tous les fidèles. Un tel spectacle eût commandé le respect aux incrédules même. Bientôt le jeune vicaire arriva au moment que le curé Gauss regardait comme le plus redoutable. C'était l'instant du prône. D'abord, il n'entrait pas dans la tête du curé, ni, je crois, d'aucun curé de campagne, que l'on parlât d'abondance. Ensuite, son vicaire allait nécessairement faire une profession de foi. Et Gauss, en regardant l'œil éloquent et mélancolique du prêtre, pensa que M. Joseph serait un rigoureux observateur des minutieuses pratiques de la religion. D'un autre côté, tout le monde désirait entendre ce prêtre, qui officiait avec tant d'onction, et les femmes, par-dessus tout, attendaient ce moment pour juger plus à fond de cette figure qu'elles n'apercevaient que lorsque M. Joseph se retournait, et de l'organe, des sentiments, de la taille du jeune vicaire. Le bon curé, enchanté de se voir pour toujours débarrassé des prônes et des sermons, qui étaient pour lui la tâche la plus difficile et la plus fatigante, débita avec sa bonhomie habituelle le dernier prône qu'il eut composé. Nous le transcrivons à cause de son originalité. « Mes enfants, à bon entendeur, salut. Il suffit d'un mot pour éclairer la conscience. Or, nu l'on s'en vient, nu l'on s'en retourne. Songez à cela, et vous verrez qu'il ne faut emporter au ciel qu'une âme sans remords. Sans cela, vous seriez reçus comme des chiens dans un jeu de quilles. Or, on ne court pas deux lièvres à la fois. On ne fait pas son salut et sa fortune. Un riche passe plutôt par un trou d'aiguille qu'il n'entre dans le ciel. Les honneurs changent les mœurs, et un mort doré ne rend pas le cheval meilleur. Hélas, le chemin du ciel est étroit, et celui de l'enfer large. Gardez donc une poire pour la soif, en vous conduisant bien. Ne soyez pas moitié figue, moitié raisin, et sans chercher midi à 14 heures, allez droit votre chemin, vous arriverez. Je sais bien que l'on vous dira « Il faut hurler avec les loups ». Alors souvenez-vous que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et que qui casse les verres les paie. Allez, pensez toujours à votre salut, et pour cela, deux sûretés valent mieux qu'une, car Saint-Pierre ne laissera pas passer des chats pour des lièvres. Il est vrai qu'il n'y a si bon cheval qui ne bronche, et qu'il n'est pas permis à tout le monde d'aller à Corinthe. Quoique j'ignore ce que c'est que Corinthe. Car à petit mercier, petit panier, je puis vous assurer que le Seigneur est bon, et sans rester entre le ziste et le zeste, assurez souvent vos comptes avec lui, pour ne pas mourir en fraude. Les bons comptes font les bons amis. Je vous laisse, mes enfants, car il n'y a si bonne compagnie qu'il ne faille quitter. Souffrez donc que je répète une dernière fois que chacun est fils de ses œuvres, et un bon conseil vaut un œil dans la main. Or, qui a su vivre, c'est-à-dire bien vivre, sait mourir. Je sais bien qu'il n'y a pas de rose sans épines, et que la vie est difficile. Mais souvenez-vous qu'avec du temps et de la patience, la feuille du mûrier devient satin. Du reste, si le diable est fin, nous sommes comme des éveillés de Poissy, et à trompeur, trompeur et demi. Je vous réponds qu'il y perdra son latin. Car fin contre fin, il n'y a pas de doublure. Au surplus, n'avons-nous pas l'espoir du paradis? Or, qui a terre, a guerre. Défendons-nous du démon. À bon chat, bon rat. Et souvenez-vous qu'à brebis tondue, Dieu mesure le vent. Il vous aidera, mes enfants. Un père est toujours père. Vous voyez qu'aujourd'hui, comme toujours, je n'ai jamais cherché à vous jeter de la poudre aux yeux. Je vous dis les choses sans fleur de rhétorique. Adieu, mes enfants. Le moine répond comme l'abbé chante.
J'espère que mon successeur vous conduira encore mieux que je n'ai fait. Néanmoins, je crois que vous n'oublierez pas votre vieux pasteur qui vous souhaite la béatitude des anges. » À peine M. Gauss eut-il fini que le jeune prêtre, précédé par le bedeau, se dirigea vers la chaire de vérité. Le plus grand silence se rétablit. Le clergé se groupa à l'entrée du chœur, M. Joseph se plaça dans la chaire, et regardant tour à tour et cette antique voûte et ses paroissiens, il leur dit d'un ton de voix lent, grave et paternel, « Mes frères, c'est ici, dans cette humble campagne, que j'annoncerai la parole divine, le pain de vie. C'est à vos cœurs simples et exempts des grandes passions que je m'adresserai toujours, car toujours je veux demeurer parmi vous. C'est dans cette vallée que j'ai marqué ma place. Mes enfants, je vous donne ce nom, car je vous adopte, et veux être pour vous un véritable père spirituel. Je ferai tout pour acquérir votre amour, heureux si j'y réussis. Heureux si, vous dirigeant dans la bonne voie, après avoir guidé les pères, je les console dans l'espoir qu'ils laisseront des fils dignes d'eux. Nous tâcherons d'écarter les orages qui pourraient menacer notre vallée, et nous l'enceindrons de manière à la purifier. Mes enfants, n'attendez jamais de moi ni éloquent discours, ni sévérité, ni exigence. Ministre du Dieu qui disait « Laissez approcher les petits-enfants de moi. Je ne parlerai qu'à votre cœur. » Jésus pardonna à la Samaritaine. Jésus se contentait de peu. Je tâcherai d'imiter ce divin maître. Je ne vous prêcherai que ce qu'il a prêché, la douceur et la charité. » Une larme s'échappa de l'œil du vicaire à cette dernière phrase, et son émotion fut remarquée par tout le monde. « Surtout, dit-il, nous vous préserverons de notre mieux de ces grandes passions. Le malheur de l'homme véritablement sensible. Et si nous ne pouvons réussir à les écarter, nous vous offrirons des consolations. Enfin, nous irons pleurer avec le malheureux, secourir le pauvre, faire entrevoir aux mourants la bonté et non la vengeance de l'Éternel. Bénissant toujours, récompensant et conciliant sans cesse, nous tâcherons que notre mort soit regardée par vous comme un malheur, et que souvent, dans vos afflictions, vous disiez « Ah, si notre vicaire vivait !» Voilà la seule oraison funèbre, les seules louanges que nous désirons après nous être efforcés de semer des fleurs sur vos pas dans cette vie de douleur. Songeons toujours que c'est là-haut que nous devons nous rencontrer tous, jouissant d'un éternel bonheur. » Il semblait que cette douce voix fit résonner dans les cœurs la divine musique des anges. Un attendrissement général fut pour le jeune vicaire un triomphe qui parut le toucher. « Il n'a pas dit un seul mot de latin !» dit Marcus Tullius le Sec à l'un des curés. « Sans cela, son discours ne serait pas mal !» Lorsque le jeune homme revint au cœur, M. Gauss lui prit la main et la lui serra avec une expression admirable de remerciement et de compassion. Car le bon curé avait pleuré quand M. Joseph avait parlé de sa fin prochaine. La messe fut achevée avec la même ferveur. Les cœurs de tous les bons habitants avaient été émus. Et dans l'assemblée, il y eut une jeune fille qui pleura amèrement lorsque le vicaire parla des malheurs que causaient les passions. C'était la fille de Marie, concierge du château d'Aunay. Avant la fin de la messe, elle se trouva tellement malade que son frère Michel fut obligé de la prendre dans ses bras pour la transporter chez elle. Pauvre fille! Bientôt elle devait revenir dans cette église, pour la dernière fois, et portée par ses compagnes. En sortant de la messe, on parla longtemps du vicaire, du prône, de la jeune fille, et chacun fit des commentaires que nous nous dispenserons de raconter. Le bon curé, suivi de son vicaire et de ses trois collègues, revint à cette salle à manger où déjà les conviés se trouvaient, et bientôt on se livra à la joie du festin.
Cette joie fut un peu contenue par la mélancolie empreinte dans toutes les manières et dans tous les discours du jeune prêtre. M. Gauss, qui plaignait déjà le malheur qu'il ignorait, parut moins gai qu'à l'ordinaire. Il usa auprès de son jeune suppléant de cette affabilité douce et prévenante qu'il n'est au pouvoir de personne de repousser. La conversation fut trop insipide pour que nous la rapportions. M. Joseph n'y ayant rien fourni, si ce n'est une ample collection de formules suivantes. « Oui, non, je vous suis obligé. Merci, je vous remercie beaucoup, j'aurai cet honneur-là, etc., etc. » Lorsque les curés furent partis, ainsi que la haute société donnait, lorsque M. Gauss et M. Joseph se trouvèrent seuls dans le salon éclairé par les bougies de la cheminée, et d'une table où l'on avait joué à la mouche, le bon curé regarda le vicaire, qui, pensif et la tête inclinée, ne disait mot. Il s'approcha de lui et lui prenant la main. « Mon jeune ami, vous logerez ici. Votre appartement est tout préparé. Il est décoré avec le luxe de la simplicité. Marguerite a sa chambre non loin de la vôtre, de manière que s'il vous arrive quelque chose, elle sera à vos ordres. Elle était auparavant au rez-de-chaussée, afin d'être plus à portée de moi, lorsque mes attaques de gouttes viennent me faire des sommations pas trop respectueuses. À bon entendeur de mi-mot, je sais ce qu'elles veulent dire. Mais il y a quelques jours, Marguerite m'a fait comprendre qu'une sonnette à mon chevet était beaucoup plus sûre. Elle m'en a donné de fort bonnes raisons. On peut toujours sonner. Et il est quelquefois difficile de se lever et d'appeler. Ainsi, ajouta le curé en voyant que le jeune homme allait parler, ne craignez pas pour moi. Il y avait dans les manières de ce bon curé une franchise qui mettait à l'aise et qui faisait disparaître les intervalles de temps, d'âge, etc. Enfin, il était déjà l'ami de ce jeune homme, et Joseph éprouvait, malgré sa sombre misanthropie, un secret penchant pour ce vieillard aimable. Le vicaire accepta donc, mais il accepta en donnant à entendre au curé qu'il croyait lui sacrifier beaucoup, et notamment sa liberté. « Ah, mon ami, il n'est point de belle prison. Ainsi, comptez que dans cette maison, vous serez dans la plus entière liberté. Pas de gêne, faites ce que vous voudrez. » Agissez comme il vous plaira. Chacun est fils de ses œuvres. Ménagez Marguerite. Du reste, tout est à vous. Jardin, maison, cœur, tout enfin. Et comme on dit, vinaigre donné vaut mieux que miel acheté. Non que je veuille mettre un prix à ce service. Ce qui doit le faire valoir, c'est la franchise et l'amitié. Que dire à cela? Le vicaire serra la main de son hôte et le remercia avec plus de chaleur que le curé ne lui en supposait. « Jeune homme, » dit M. Gauss, avec un ton de consolation au moment où ils allaient se dire l'adieu du soir, « souvenez-vous qu'avec du temps et de la patience, la feuille du mûrier devient satin. » Ce proverbe parut agir sur Joseph, qui monta pensif à son appartement. Pour la première fois depuis longtemps, le curé se mit à réfléchir, en procédant avec Marguerite à l'œuvre de son coucher. La gouvernante fut étonnée de la taciturnité de son maître. Cependant, lorsqu'il fut couché, il dit « Marguerite, ce jeune homme a quelque chose. » « Oui, monsieur, bien certainement. Il y a quelque anguille sous roche. » Adieu, Marguerite. » arrêta le flux qui devait suivre cette réponse. Alors la gouvernante alla se reposer de ses fatigues non loin de l'endroit où dormait le beau vicaire. Chapitre 3. Oui, de toutes les servantes, je n'en excepte pas même les femmes de chambre de grandes dames qui souvent veillent sur les escaliers dérobés. Je prétends et je soutiens que la servante qui déploie le plus de génie, c'est la servante d'un curé. Cette assertion ne m'appartient nullement, elle est prononcée entre 1h et 2 de la nuit par Marguerite, qui ne dort pas. Aussi, je la laisse prouver son dire.
« Ah, grand Dieu !» pensait-elle. « Que nous avons de mal dans nos états ! Que de menées, que d'adresse, que de science ne faut-il pas déployer depuis le moment où l'on entre chez un curé jusqu'au moment où l'on devient maîtresse absolue ? Et que de prudence ensuite, pour ne pas trop lui faire sentir notre empire et arriver jusqu'au testament ? Ne faut-il pas de plus se contenter de la vertu de son maître ? Car une gouvernante de curé ne peut se livrer aux vertus séculières du village. Elle doit afficher un vernis de sainteté et de componction qui éblouissent les honnêtes gens et retiennent les insolents.
Ce n'est pas que... »
Les idées de la servante devinrent trop compliquées pour qu'elle osât se hasarder dans ce labyrinthe.
« Mais, reprit-elle, j'ai tout accompli, et je vois que ce n'est rien encore. »
Le véritable chef-d'œuvre, c'est s'il arrive un vicaire, s'il est jeune, qu'il loge à la cure, à 3 pas de nous, de diriger sa conduite de façon à sauver au moins les apparences. Ici, Marguerite fut absorbée par de sérieuses réflexions, et elle passa au moins 1 heure à calculer les moyens les plus sûrs de sauver au moins les apparences. Quant au fond, la digne fille avait trop de confiance dans la solidité de ses principes et dans sa vieille habitude de sagesse pour s'en occuper un instant. Le sommeil la gagna enfin, avant qu'elle eût trouvé la solution de ce problème difficile. Certes, le lecteur ne voit entre ce monologue et la garde-robe de Marguerite aucun rapport, aucune coïncidence. Eh bien, il n'en est pas moins vrai que ce fut ce monologue qui fit lever la gouvernante plutôt que d'ordinaire pour tenir un conseil sur ce que ses atours lui offraient de plus coquet et de plus séduisant. Elle consentit à subir le supplice imposé par une paire de souliers qui lui faisait un petit pied. Elle frisa ses cheveux, arrangea son mouchoir de linon de manière à laisser, tout en sauvant les apparences, des interstices que je nommerai volontiers des meurtrières. Enfin, Marguerite se serra la taille, mit un corsage à manches courtes et résolut de soutenir, désormais, les dépenses causées par ce costume sur le pied de guerre. Le jeune vicaire descendit pour aller dire sa messe et revint pour déjeuner. Il salua le bon curé, mais du reste ne dit pas un mot. Et son œil chaste ne se leva pas une seule fois sur Marguerite, dont les ruses n'eurent aucun succès. En vain, en apportant le café, avait-elle étalé sur la manche noire du prêtre son beau bras blanc et potelé. En vain, elle interpella le jeune homme pour consulter ses goûts. En vain, elle fut jusqu'à le laisser manquer de pain pour obtenir un regard. Le vicaire resta impassible comme le marbre d'une statue. Et M. Gauss imita son silence, en examinant toutefois le manège de Marguerite et la sévère attitude du jeune homme. « Marguerite, dit enfin M. Gauss, qui a bu boira, et je sens bien que, où la chèvre est liée, il faut qu'elle broute. Mais les raisins sont trop verts, mon enfant. » Marguerite fut abasourdie et déconcertée par cette tirade de proverbes. Elle disparut promptement en ne pouvant répondre. Mais elle jeta encore un regard sur le jeune prêtre, qui, de son côté, levant les yeux sur M. Gauss, semblait solliciter une explication. « C'est une bonne fille, » ajouta Gauss. « Mais vous le savez, mon jeune ami, la caque sent toujours le hareng, et la femme est un animal d'habitude. Laissons cela, voulez-vous, venir faire un tour dans la vallée ?» « M'asiatique est bonne personne aujourd'hui, et il y a longtemps que je ne me suis promenée. » Le jeune vicaire prit son chapeau, alla chercher celui de son curé, et, lui donnant son bras, ils allèrent examiner la beauté du site donné.